Voilà, bonsoir.
Bonsoir.
Nous poursuivons notre pèlerinage. Donc, la fois passée, nous avons commencé à traiter de la vie secrète de l'embryon. Et nous avons voulu la traiter non pas dans un contexte souvent tragique dans lequel il est traité, mais dans un contexte joyeux. Nous verrons que nous entrerons dans un univers tragique à un moment ou à un autre, mais l'aventure de la vie embryonnaire, de l'être humain dans ses premiers commencements, est d'abord une aventure joyeuse. C'est partie des mystères joyeux, comme on dit du chapelet. Bon. Et un des défis que nous avons voulu relever, le suivant, c'est de considérer l'embryon non pas d'abord comme une réalité qui est extérieure à nous, mais qui est profondément intérieure. L'embryon que nous avons été est le principe même de notre être, et pas simplement le commencement chronologique. Oui, on a tous été embryons, et si nous sommes ici dans cet auditoire, ce n'est que le développement de ce que nous avons été dans le sein de notre nerf. Et donc, le défi que nous nous étions posé, ou que nous posait plus précisément le psaume 138-139, était de voir comment accéder à l'embryon que nous avons été et que nous sommes toujours. Comment rentrer en coïncidence avec le principe même de notre être qui est toujours actuel. Ça, c'est quelque chose qui est important de bien voir. Le principe de ce que nous sommes n'est pas une réalité qui est irrémédiablement passée, qui appartiendrait à un passé révolu, mais le principe que nous sommes est toujours encore actif et sera éternellement actif en nous. Quelque chose de très très fort quand on y pense. Hein. Donc, c'est un pèlerinage à la source même, toujours jaillissante, de notre être. Pas simplement à... Et pour ça, nous avons vu dans une première partie d'ordre de facture plus philosophique combien le regard de l'échographe, aussi merveilleux soit-il, est insuffisant. Combien le regard de nos parents, aussi émerveillé soit-il, est insuffisant. Combien le propre regard que nous avons sur nous-mêmes est insuffisant. Et combien il nous faut rentrer dans le regard même que Dieu porte. Et cette partie philosophique, nous l'avons reprise maintenant, simplement en nous laissant conduire par le psaume 138-139, qui est un joyau de la littérature mondiale. Voilà, alors je vous propose, pour ceux qui n'étaient pas là, ou bien pour nous rafraîchir la mémoire, de vous relire ce psaume. Excusez-moi, ça prend peut-être du temps, mais voilà, ça vaut peut-être la peine. Seigneur, tu me scrutes et me connais. Toi, tu connais quand je demeure et quand je me dresse. De loin, tu comprends ma pensée. Ma marche, mon repos, tu mesures. Et de tous mes chemins, tu es le familier. Car il n'y a pas un propos sur ma langue. Voilà, Seigneur, tu le connais tout entier. En arrière et en avant, tu m'assièges, et tu mets sur moi ta paume. Connaissance trop merveilleuse pour moi, lieu si sûr que je ne puis l'atteindre. Où pourrais-je aller loin de ton souffle, et où, loin de ton visage, pourrais-je m'enfuir? Si je gravis les cieux, toi, tu es là. Et si je fais au Sheol mon lit, te voici. M'élèverai-je avec les ailes de l'aube? Résiderai-je à l'arrière de la mer? Même là, ta main me guidera et elle me saisira ta droite. Et je dirai vraiment que la ténèbre me couvre et la nuit est lumière autour de moi. Même la ténèbre n'enténèbre pas pour toi et la nuit comme le jour illumine, pareil la ténèbre, pareil la lumière. J'ai lu la première partie, versets 1 à 12, que nous avons commencé à étudier la fois passée, qui est intitulé « Tu me connais, tu es là ». Donc, le psaume, avant de méditer sur la vie proprement embryonnaire, médite sur la connaissance de Dieu, sur la connaissance de Dieu et sa présence. C'est une connaissance qui est une présence. Il y a différents types de connaissances. Connaissance qui est une présence. Nous avons vu donc que le début du psaume et la fin du psaume se renvoyaient l'un à l'autre, mais que entre le début et la fin, il y avait tout un chemin qui s'était développé. Tu me scrutes, scrute-moi. Début, tu me scrutes, scrute-moi. Tous mes chemins te sont familiers. Voici, je prends le chemin des idoles. Conduis-moi sur le chemin de vie. Un discernement a été opéré entre chemin d'idole et chemin de vie. Alors, arrêtons-nous un instant à l'aide du psaume sur la connaissance de Dieu. Nous avons déjà fait cela, mais je redis l'un ou l'autre une autre chose. Une connaissance qui est aussi une présence plénière de Dieu. Une connaissance qui est dans tous les aspects de notre être. Donc nous sommes connus dans tout ce que nous sommes, dans tout ce que nous faisons. Nous avons vu ça la fois passée. Et nous éprouvons cette connaissance de façon plus vive au moment même où on prie ce psaume, où on s'adresse à Dieu. On fait l'expérience, lorsque l'on prie Dieu, d'être connu par lui. C'est une connaissance qui n'est pas... Vous savez, il y a différents... On a parlé de ça de l'épistémologie. Nous allons avoir d'ailleurs un professeur d'épistémologie parmi nous. Mais il y a différents niveaux épistémologiques, différentes façons de connaître. Et là, nous sommes dans un niveau de épistémologique, comme on dit. Épistémé en grec, ça veut dire connaissance, connaître. C'est un niveau qui est vraiment radical, celui de l'expérience. C'est dans l'acte même de prier que je fais l'expérience d'être connu, que je sois couché, que je sois assis pour penser, que je sois debout pour agir. Alors, toutes les dimensions, que je sois dans la ténèbre, que je sois dans la lumière. Je suis connu. Je suis intimement connu. Le cosmos aussi. Et là, maintenant, je reprends typiquement le point où nous étions arrivés, je n'aurais pas été plus loin. Le cosmos, lui aussi, demeure entièrement sous les yeux de Dieu, le merveilleux. Le cosmos est connu, mais si vous voulez, c'est très intéressant de voir comment le cosmos n'est pas connu par Dieu comme tel, mais en tant qu'il est le théâtre dans lequel l'homme évolue. Il y a différentes façons de connaître le cosmos, et dans ce psaume-ci, le cosmos, l'univers, est contemplé, pour reprendre une expression de notre cher pape François, comme la maison de l'humain. Je pense que là, on retrouve le pape François retrouve une intuition du psaume. Dans cet espace traversé en toutes directions, observe l'exégète Paul Beauchamp, l'affirmation classique « Dieu est partout » change de sens. L'espace ne contient rien, il est seulement la possibilité de rencontrer ou de fuir Dieu. Donc, c'est pour ça que je parlais de théâtre. Hein. L'espace, un peu comme dans les premiers chapitres de la Genèse, où Dieu se promène dans le jardin et la création est le lieu où l'on peut soit aller vers Dieu, soit se cacher de Dieu, essayer de se cacher de Dieu. Donc ce n'est pas une connaissance du cosmos comme dans d'autres psaumes ou dans d'autres textes. Vous avez d'autres, les cieux proclament la gloire de Dieu, le firmament. Non, c'est pas directement ça. C'est simplement comme le lieu d'une rencontre ou d'un fuir Dieu. Chaque parcelle de l'univers est connue du Seigneur, qu'elle soit dans la ténèbre ou dans la lumière. Nuit et jour ne sont en rien étrangers à Dieu qui les a jadis séparés l'un de l'autre. Dans toutes les obscurités possibles et imaginables, il est là. Quelque chose d'extrêmement puissant, cela. Hein, dans toutes les obscurités possibles et imaginables, il est là. Même la toute dernière nuit, celle de notre mort, n'est pas privée de sa présence, comme le chantera ou comme l'a chanté le psaume 22-23. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Où que j'aille, tu es là. Je peux m'aventurer partout. Et encore une fois, cette découverte est expérimentée, si vous voulez, dans une rencontre avec Dieu, avec le Créateur. Il n'existe aucun espace, aucune dimension, aucun temps où je sois dans une solitude absolue. Quelque chose de fascinant, hein, de se rencontrer. Alors, ça ne veut pas dire que subjectivement, beaucoup de gens peuvent à certains moments expérimenter une solitude glacial, oui. Mais même dans cette solitude glaciale, Dieu est là. Nous pouvons, comme chrétiens, avoir en tête la solitude glaciale de la mort, où même Dieu descend à travers en Jésus. Oui. Même dans cette nuit-là, Jésus est là. Oui. J'ai eu le redoutable privilège d'accompagner un petit enfant dans ces 6 derniers mois. Il est mort à 7 ans. Et à un certain moment, il m'a demandé mais pourquoi est-ce que Jésus ne me guérit pas ? Je ne savais pas comment répondre, évidemment. Et il avait un joli petit crucifix bleu, comme ça, représentant bien le Christ. Et je lui ai dit, écoute, Sim, je ne sais pas te répondre. Je ne sais même pas s'il y a une réponse qui existe sur la terre. Mais ce que je peux te dire, c'est que regarde vraiment bien le crucifix et tu vas comprendre que Jésus, il a mal avec toi. Qu'il est avec toi dans ta souffrance. Alors Sim m'a regardé avec une intensité que je n'oublierai jamais, pendant 38 secondes et 8 centièmes, son crucifix. Et puis il m'a sorti, qu'est-ce qu'il doit avoir mal au bras ? Bon. Et j'en ai parlé à sa maman, qui n'a pas rigolé en fait. Elle a été très touchée, elle s'est dit, mais en fait, ça fait 2 jours, il crève de mal au bras. Et donc l'enfant avait compris que Jésus était là, qu'il avait mal avec lui, vous voyez, dans sa souffrance. C'est l'intuition du psaume 638, hein, tu es là partout, y compris dans les nuits les plus obscures, pour moi, même dans mes solitudes les plus obscures, tu es là. Oh, je n'ai peut-être aucun sentiment de ta présence, c'est peut-être un sentiment, mais tu es là. Pour l'homme, commande Père Jean Marino, pas de cachette où il puisse ne pas exister pour Dieu. Il n'y a pas d'endroit où nous ne pouvons pas ne pas exister pour Dieu. On peut avoir parfois dans la vie, dimanche passé, j'ai fait le catéchisme à des enfants, excusez-moi, il faut que j'avance, sinon non, ouais. Mais c'était trop beau. J'ai demandé aux enfants, on parlait de la création, j'avais 7 garçons de 11 ans autour de moi, et je leur ai dit, imaginez-vous ne pas exister. Ils m'ont dit, c'est pas possible. Essayez d'imaginer ça. Alors, franchement, comme ça. Hein. C'était drôle comme tout. Hein. Et alors, après, je leur ai dit, écrivez ce que vous avez senti. Et il y en a un qui m'a dit, comment est-ce que vous représentez non-existant ? Et alors, il y en a un qui m'a sorti, en fait, j'y arrivais pas, alors j'ai regardé ma famille sans moi. C'était fort comme ça. Mais donc, il n'y a pas un lieu où nous n'existons pas pour Dieu. Même si on a parfois le sentiment, et ça c'est sans doute une des maladies de notre temps, de la non-existence, d'être vide, d'être étranger ou aligné à soi-même, nous existons pour quelqu'un, pour Dieu. Alors, cette connaissance, qui est une présence, peut apparaître à certains moments comme éprouvante. Bien sûr, dans un premier temps, c'est rassurant. Je ne sais pas si vous avez lu ou vu le film Le Parfum. C'est l'histoire abominable de quelqu'un qui a un nez extraordinairement fin et donc qui sent toutes les odeurs, qui est devenu maître parfumier génial. Mais le problème, c'est qu'il n'a pas d'odeur lui-même. Et donc, il y a personne qui le remarque dans une foule. Et ça lui est absolument insupportable. Nous avons besoin d'être remarqués. Nous avons besoin d'être connus. Nous avons besoin que quelqu'un fasse attention à nous. Ce n'est pas de la mauvaise prétention. On est fait pour être connu. Mais on est fait pour être connu d'une bonne connaissance. Et nous avons tous le désir d'être connus. Mais pas n'importe qui, pas par n'importe qui, et surtout pas n'importe comment, d'accord ? Nous ne voulons pas être connus dans une connaissance manipulatrice. Du coup, alors on se protège. Donc, le fait d'être connu par Dieu, Dieu n'est pas l'éternel indiscret hein, de Sartre. Dieu, c'est une connaissance. C'est comme le fait qu'on a besoin d'être connu par son époux, par son épouse, par ses parents, par ses amis, hein, voilà. Son évêque. Bon. Bon. Et donc, le fait d'être, de cette expérience d'être connu par Dieu partout dans l'univers fait jaillir un cri de joie au psalmiste. Mais aussi, elle provoque en lui une certaine angoisse. Cette connaissance est éprouvante et même encombrante à certains moments, oppressante. Ne risque-t-elle pas la connaissance que Dieu a de moi de m'écraser ? Tu m'assièges, dit le psalmiste, comme on assiège une ville. C'est terriblement oppressant, enfin, je n'ai jamais vécu ça, mais une ville qui est assiégée, ça doit être terrible, hein, on ne peut pas, voyez. Où pourrais-je aller loin de ton souffle ? Et où loin de ton visage pourrais-je m'enfuir ? Ah, pour respirer, quoi. Mais, une sorte de. Il y a un livre dont j'avais lu un titre, je ne l'ai pas lu, mais sur les tyrannies de l'intimité. Hein, d'un livre de psy. Bon, tyrannie de l'intimité, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Parce que Dieu, il n'y a pas une tyrannie de l'intimité divine. Hein. Vraiment que la ténèbre me couvre. Verset 11. En effet, depuis la chute originelle et le désordre cosmique qui en a résulté, les humains nourrissent une réelle méfiance vis-à-vis de leur Créateur. Et nous sommes tentés de fuir sa face. On est tous tentés de fuir la face de Dieu. Je pense qu'une des raisons les plus radicales pour lesquelles on a du mal à prier, ce n'est pas avant tout un problème d'organisation, mais c'est que depuis Adam et Ève, ben, on a peur d'être déçu, on a peur d'être encombré par Dieu, on ne sait pas comment faire, le temps est long. Il y a un aspect éprouvant de se laisser connaître par Dieu. Et tous, avec Adam et Ève, on va se cacher derrière la création et l'activité pour mettre de la distance avec Dieu. Cette peur de Dieu, ou plus précisément cette peur du Dieu imaginé à l'aide des insinuations maléfiques du serpent, j'ai eu peur, je me suis caché. Genèse 3, 8 à 10. J'ai eu peur, terrible de dire, j'ai eu peur de toi Dieu. C'est à l'aube de l'humanité. C'est-à-dire, Adam et Ève, c'est nous. Hein. Faut pas remonter, c'est pas nous aussi, mais c'est aussi nous. Hein. Ils ont eu peur. Ils ont peur de la connaissance de Dieu, que la connaissance vienne. Ou plus précisément, c'est une peur du Dieu imaginée à l'aide des insinuations maléfiques du serpent. Et donc, on a envie de fuir la face, de traverser tout l'espace et le temps pour se protéger, pour fuir la face, verset 7, de notre Dieu, comme le prophète Jonas aussi en son temps. C'est le petit prophète Jonas, là, l'Iran. Car depuis le péché originel, l'omniscience de l'Éternel est perçue comme en partie une éternelle indiscrétion au service de sa volonté de puissance. Son œil, représentation privilégiée du divin dans toutes les religions, est considéré comme impitoyablement intrusif. Son omniprésence est vécue comme une tyrannie. La proximité amoureuse de son souffle, au verset 7, est éprouvée comme une menace d'étouffement. La paume de sa main, censée protéger, c'est pour ça que les juifs portent une kippa, et puis les évêques et le pape à leur suite. La kippa, c'est le signe de la main de Dieu protégée qui est sur la tête de la personne à chaque instant. D'ailleurs, quand vous avez un enfant qui est à quatre pattes et qui se monte, vous mettez sa main pour protéger sa tête. Cette paume de la main, comme d'ailleurs Dieu a fait avec Moïse. Hein, vous vous souvenez quand il l'a protégé de la paume de la main dans le rocher quand il est passé. Hein. Moïse en Exode 33, 22, est ressentie comme captatrice, agressive, manipulatrice et accablante, à l'instar des paumes humaines à certains moments. Selon cette logique pécheresse, la connaissance de Dieu est comparable à celle attribuée aux idoles glaciales et vides, dominatrices et pleines de convoitises. De même en est-il pour sa main unique, pas simplement la paume, mais la main qui saisit. Alors, on a besoin d'être saisi, mais il y a une ambivalence dans le fait d'être saisi. Comment est-ce que je vais être saisi par Dieu ? Est-ce que c'est on a besoin d'être saisi, mais en même temps, est-ce que c'est un saisissement qui est un accaparement, une capture, ou au contraire, une mise debout ? Bref, derrière ces versets qui expriment un émerveillement sans fin, on ne peut ni ne doit exclure une réelle ambivalence.
Dans sa très grande limpidité, le psaume 138 accueille les mouvements intérieurs contradictoires qui nous traversent tous face à la connaissance de Dieu. C'est pour ça que, personnellement, moi, j'aime énormément l'Ancien Testament. Évidemment, il faut essayer de bien le comprendre. Hein. Mais l'Ancien Testament est hospitalier de tous nos mouvements contradictoires en nous. Il témoigne bel et bien d'un combat spirituel. Ce psaume, comme tous les psaumes, reflète un combat spirituel. Fuir Dieu en vain, puisqu'il saisit l'homme, ou être saisi par Dieu sans le fuir? Ça, c'est la question. Expression de Paul Beauchamp. Nous passons à la deuxième grande partie, thumatisé. Alors je poursuis la lecture. Car toi, tu as acquis mes reins, tu m'as tissé dans le ventre de ma mère. Donc je suis au verset 13. Je te rendrai grâce parce que prodigieusement j'ai été mis à part. Merveilleuses sont tes œuvres et mon âme connaît infiniment. Mes os n'étaient pas dissimulés loin de toi quand j'étais mis en œuvre en cachette, brodé dans les profondeurs de la terre. Tes yeux voyaient mon embryon et sur ton livre étaient comptés que tous les jours qui furent modelés. Et pas un parmi eux n'était encore. Et pour moi, quelles sont difficiles tes pensées, Dieu. Quelle est multiple leur somme. Les compterai-je? Plus que le sable, elles abondent. Je me réveille et suis encore avec toi. Donc après l'omniscience et l'omniprésence, malgré ses réticences et ses craintes, à travers son émerveillement, le psalmiste demeure face à son Dieu et nous, comme lecteurs, avec lui. Après avoir circulé dans tous les sens sous la voûte céleste, à l'est, à l'ouest, au-delà des îles, partout, circulé partout, on a parcouru plus de kilomètres qu'Abraham, tout d'un coup, nous nous recueillons, le psaume se recueille auprès du ventre de sa mère, associé aux profondeurs de la terre, au verset 15. Le psaume accède à ce temps et à ce lieu originel, à cette douce obscurité du sein maternel. Blotti dans la mémoire de Dieu, il rejoint un surgissement intérieur, toujours actuel, de son être personnel. C'est toi qui as formé mes reins. Les reins, c'est une façon aussi, pour la langue hébraïque, de parler du siège de l'intériorité. La langue hébraïque, je vous l'ai déjà dit, vous le savez, est extrêmement concrète. De sa conscience morale, de ses sentiments et de ses intentions. Tu m'as protégé, couvert. Tu as tissé ma chair, mes nerfs et ma peau sur mon squelette osseux. C'est l'idée du tisserand. Il y a le squelette et puis il tisse le... Je ne sais pas si je vais raconter ça un jour. Je vais demander à un enfant, quand tu reçois le Christ, où le reçois-tu? Je vais raconter ça. Et il y en a une fille de 7 ans qui m'a dit, tu vois... Tu reçois dans ton cœur, et puis alors il grandit jusque dans ta tête, et ça descend jusque dans tes pieds, et ça va jusque dans le bout de tes doigts. C'est merveilleux. Puis il y a un garçon qui me dit, dans mon squelette. Et je lui dis, pourquoi? Il me dit, je sais pas, mais dans mon squelette. Tu crois pas dans ton cœur? Oui, mais d'abord dans mon squelette. Il savait pas expliquer. Et puis j'ai pensé à ce psaume, je me suis dit, mais c'est génial. Cette intuition, 7 ans, cette intuition. Le squelette, c'est vraiment ce qui nous permet de tenir droit, c'est on dirait en philosophie, la substance même de notre être. Mais lui, il l'exprime avec les mots, il retrouve la fraîcheur et la concrétude de la langue hébraïque. Et libérant ainsi la communion eucharistique de ses interprétations parfois trop sentimentalistes, qui sont aussi importantes. La petite fille de 7 ans avait tout à fait raison aussi. Mais j'étais bien mieux d'avoir les deux ensemble, j'ai pu dire, mais vous avez tous les deux raisons et il faut articuler les deux. Et à certains moments, on ressent beaucoup de choses et à d'autres moments, on ne ressent rien du tout. Mais ce n'est pas parce qu'on ne ressent rien que l'Eucharistie ne rejoint pas notre squelette. Bon. C'est intéressant qu'il était persuadé du squelette, mais il ne savait pas expliquer pourquoi. Bon. Donc, tu m'as abrité dans le sein de ma mère, tu m'as mis à part. c'est très intéressant. Tu m'as mis à part. C'est le vocabulaire de l'élection. Mise à part. Ah, penser la création comme une élection. Moi qui suis peut-être tenté de penser que je suis le fruit des hasards, ou qui peut-être était, qui suis né de manipulation génétique ou quoi. Ce qui est vrai aussi peut-être. Mais en fait, plus fondamentalement encore, j'étais mise à part, j'étais ému. C'est génial. Il y a plusieurs façons de parler de l'élection. Hein. La mise à part est une façon de parler de l'élection et de la création. Comme le divin potier de la Genèse, tu m'as façonné dans les profondeurs de la terre. Ça renvoie à Genèse 2. Dieu qui modèle. Tu agis pour moi de la même façon que pour Adam et Ève. Leur histoire est mon histoire. Tu as brodé chacune des fibres de mon être avec précision, patience et adresse. La création n'est pas simplement initiale, elle est continue. Voilà. Avec les enfants de catéchisme, justement, la fois passée, on a vu la différence, 11 ans, hein, mais la différence entre la cause première et la cause seconde. C'est-à-dire que Dieu crée comme cause première, il cause les lois de la nature par lesquelles, évidemment, le corps se construit, etc. Donc, il est cause première des lois qu'on découvre dans les sciences, etc. Mais qui sont, de ce point de vue-là, toujours des causes secondes. Les lois scientifiques sont des causes secondes. Mais en même temps, il reste présent. Je verrai ça plus tard dans mon point sur, si j'y arrive, de l'anthropologiste charnel. Il faut que j'avance. Donc, si vous voulez, on a là un foisonnement d'images. Hein, l'image du potier, du tisserand, parce que pour exprimer l'acte de la création, aucune image n'est suffisante. Il ne faut pas absolutiser une image. Et c'est à travers le langage poétique, qui est sans doute le langage le plus adéquat pour exprimer cet acte extraordinaire de la création. Ça ne veut pas dire que tous les autres langages ne sont pas utiles, celui de la philosophie et autres, celui de la science et autres, des différentes sciences, mais fondamentalement, l'acte créateur, c'est la poésie, le langage poétique qui est le plus, qui rejoint le plus la vérité de ce qui est, dans son intégralité. Il ne s'agit pas ici d'exprimer, évidemment, le comment scientifique. Non. À la manière d'un traité aristotélicien, par exemple, ou de génétique moderne. Mais ce langage est capable de rejoindre ce que la science est incapable de percevoir, simplement parce qu'elle n'en a pas les outils, elle n'a pas la prétention. Et moi, je suis content qu'un scientifique ne s'occupe pas trop de ces histoires-là, quoi. Pas jusqu'à un certain point, mais je veux dire, j'aime bien que ce soit précis et au niveau scientifique et que du coup ça va aider hein, chacun, mais oui, ça atteint un autre niveau d'être qui est beaucoup, beaucoup plus fondamental et dont nous avons besoin comme de pain pour exister, comme de souffle. Et puis, je vous fais grâce de ça, mais ce texte renvoie à des tas d'autres textes bibliques. C'est un feu d'artifice de renvoi de l'Ancien Testament. Et devant ce feu d'artifice joyeux, je te rends grâce parce que prodigieusement j'ai été mis à part, merveilleuses sont tes œuvres. Avec stupeur, il confesse l'action merveilleuse du Seigneur, comparable à celle que celui-ci mena au temps de Moïse, lorsqu'il donna naissance à son peuple Israël. Venez, voyez les gestes de Dieu, prodigieux en haut fait, sont les mêmes mots, pour le fils d'Adam. Il changea la mer en terre ferme, on passa le fleuve à pied sec. C'est très intéressant de relire le passage de la mer rouge à travers les eaux de la mer rouge comme une naissance. C'est volontaire. Hein? Il y a toute cette symbolique-là d'une naissance du peuple d'Israël comme peuple. Et donc il y a une humble fierté à se reconnaître créé par Dieu. Plus qu'une fierté, il y a aussi un consentement. C'est un petit peu subtil, mais en disant cela, le psalmiste consent à se laisser créer par Dieu, à s'être laissé créer par Dieu. à cette œuvre merveilleuse que Dieu a accomplie au premier moment de son existence, et comme c'est toujours au principe, qu'il continue à poursuivre maintenant, au moment même où je vous parle. Vous avez vu ça aussi dans le catéchisme, mais c'était hier, enfin dimanche passé. Si Dieu était un moment distrait, il y en a un qui m'a dit oui, s'il allait jouer sur sa PlayStation, j'ai dit exactement, nous tomberions dans le néant. Oui. Dieu est présent à nous à chaque instant. Donc, eh bien, nous consentons à cette œuvre merveilleuse en le proclamant. C'est profondément aussi guérissant pour une mentalité nietzschéenne. Hein. Nous sommes tous un peu nietzschéens sur les bords, hein. Moi le premier. Hein. J'ai mon mémoire de maîtrise en philo sur Nietzsche. Bon. J'ai adoré. Bon. Mais c'est redoutable. C'est redoutable. Oui. Mais là, vous avez une guérison de cette extraordinaire mouvement autocréateur de Nietzsche qui refuse tout consentement à être créé. C'est sans doute le drame spirituel de l'œuvre de Nietzsche qui est plus que de la philosophie. C'est un traité de mystique. C'est une forme de mystique du néant et du surhomme qui sont en fait la même chose. Bon, je ne vais pas m'engager, c'est pas le sujet aujourd'hui. Alors, c'est là qu'il s'agit de... Si vous ne comprenez pas trop, c'est pas grave, il y a les textes qui sont écrits, vous pouvez revenir là-dessus, mais ce consentement est en quelque sorte une participation à la création divine. Quand je consens à être créé, je participe à ma propre création. Je participe à l'acte divin par lequel il m'est donné d'être. En quelque sorte, si vous voulez, dans ce psaume, je coïncide librement avec l'acte qui m'a créé et qui me crée. J'y communie. Vous parlez de cette psaume comme un acte de communion avec l'acte créateur. Et donc de coopération. Donc, de ce point de vue-là, l'autocréation dont parle réellement le psaume, à travers le consentement, est radicalement différent de l'acte autocréateur nietzschéen. Nous sommes à midi, pour reprendre la symbolique nietzschéenne, par rapport à minuit. Par son propre poème inspiré, le psalmisme devient en quelque sorte co-auteur de la poésie divine qui le crée. Situé dans le temps, il collabore ainsi personnellement à l'ouvrage de l'Éternel, son Créateur. Alors, si vous ne saisissez pas, c'est pas grave. Moi, je dois avouer que ça m'a mis pas mal de temps à comprendre ce que je raconte ici. Donc, c'est de l'ordre aussi de l'intuition, hein, de voir que le consentement est en fait créateur. Alors, donc, il y a une sorte de reconnaissance, de consentement, qui est une forme de co-création, de coopération à ma propre création. Et puis, il y a aussi un acte un peu de retrait par rapport à tout ce qui se passe. Il y a un acte aussi contemplatif. Dieu n'a pas seulement agi prodigieusement en associant le psalmiste à son œuvre, il l'a aussi regardé. Il l'a aussi regardé. Ses yeux voyaient son golmi, peu importe. Mais golmi, c'est un mot, je vais quand même vous le mettre. C'est un mot qui apparaît ici pour la seule et unique fois dans toute la Bible, golmi. Pas d'autre fois. Ce terme désigne une masse informe repliée en boucle et riche en potentialité. Une masse informe repliée en boucle et riche en potentialité. Comme un morceau d'argile non encore travaillé par le potier. La Taube le traduit par ébauche. La Bible de Jérusalem par embryon. Dans ce golmi microscopique, Dieu le voyait déjà, lui, le psalmiste. Très fort quand même. Prenant de la distance par rapport à son action créatrice, il l'a contemplé alors qu'il était tout à fait inachevé, que son cœur ne battait pas encore, que son système nerveux central n'était pas encore élaboré, ni ses membres formés, qu'il ne présentait pas encore une apparence humaine. Déjà alors, se réjouit le psalmiste, j'existais pour toi et ton regard m'a enveloppé, moi qui n'avais pas encore de paupières. Modelé dans les entrailles de la terre, caché dans le sein de ma mère, tu ne m'as pas considéré comme un objet, comme une chose sans âme, tu me regardais pour moi-même, comme tu l'as fait pour Adam et Ève. C'est très beau, hein, quand, dans les premiers chapitres de la Genèse, Dieu agit et puis Dieu voit. Il voit que c'est bon. Hein. Et ici, c'est la même chose. Hein. Non seulement tu m'as créé, mais tu m'as regardé. Continue à me regarder. Et vous vous souvenez du mot d'entrée et du mot de sortie du psaume, scrute-moi. C'est ce regard-là, c'est ce regard créateur. Ce regard gratuit. Mais vous avez l'habitude de cela avec vos propres enfants et vos petits-enfants. Quand vous êtes dans l'urgence, etc., on fait plein de choses, habille-toi, dépêche-toi, et puis il y a des moments où vous êtes là, et je crois que c'est une des grâces aussi de l'âge des grands-parents et des arrière-grands-parents, d'avoir le temps de mieux regarder. Entre parenthèses, un jour, je demandais aux enfants, c'est quoi la douceur ? Il y en a un qui m'a dit, tu vois, c'est quand tu ne dois pas faire tout trop vite. Donc, on imaginait les parents dans l'action, vous voyez. Hein, c'est magnifique comme perception de la douceur. Hein, c'est vrai, le matin, c'est la guerre, quoi. Enfin, il faut se dépêcher et tout. Mais quand on est petit, c'est pas là. Dieu prend le temps de regarder. Et, comme... C'est peut-être une je n'engage que moi là-dedans, mais je crois que c'est une des grâces particulières des grands-parents, de regarder. Et donc d'avoir ce regard sur ces petits-enfants que la société n'a pas toujours et que les parents ont aussi évidemment, hein, mais ne prennent peut-être pas toujours le temps de le faire. Voyez, hein. Et les enfants ont besoin de ce regard pour grandir. Hein. Ce regard divin n'est pas confiné au passé le plus archaïque de l'homme. Il porte aussi sur son avenir qui n'existe pas encore. Sur ton livre étaient comptés eux tous les jours qui furent modelés, et pas un parmi eux n'était encore. Bon, de nouveau, ce que je vous dis ce soir, c'est à la fois simple et à la fois, vous le sentez bien, c'est abyssal. Hein, c'est abyssal. Hein. Donc, c'est pour ça que ce psaume, on a besoin de le méditer, le reméditer, le re-reméditer. Donc l'éternité divine, c'est pas l'absence de temps. L'éternité divine, c'est la présence de Dieu à chaque instant du temps. Un petit schéma.
On peut avoir. En général, on dit que la conception judéo-chrétienne du temps est linéaire. C'est vrai, on peut penser ça comme ça. Mais on peut aussi penser à le temps sous forme, si vous voulez, circulaire, je ne dessine pas bien le rond, mais ça c'est l'éternité et ça c'est le temps. Et vous devez voir ça en trois dimensions. Et donc Dieu est présent, l'éternité est présente à chaque instant du temps, de notre existence. Vous voyez ? On peut imaginer dans la vie, sous forme, avec un triangle là, l'éternité, avec la présence de Dieu à chaque instant dans le temps. Ça va ?
Vous comprenez que le psalmiste peut éprouver ça à certains moments comme éprouvant. Hein. La prière, qu'est-ce que c'est d'autre que se mettre sous le regard de Dieu, en sa présence. C'est fondamentalement, l'oraison, prier, c'est quoi ? Enfin, nous avons là un maître de prière, mais je crois que fondamentalement, la prière, c'est se mettre sous le regard et se mettre en présence de Dieu. Puis être en dialogue, en commerce d'amitié, comme dit Saint-Thérèse d'Avila. Mais fondamentalement, c'est se mettre et de ne pas fuir cette présence ou ce regard qui, pour toute série de raisons, qui peut nous paraître difficile à certains moments. La vie de chaque créature, dès le premier instant de son existence, est entièrement présente au regard de son Dieu. cela signifie pas qu'elle est soumise à un destin fixé d'avance. Vous allez dire, mais si Dieu connaît tout, c'est l'objection classique. C'était une des grandes questions du grand philosophe belge Jean Ladrière. Si Dieu est philosophe des sciences, si Dieu connaît tout, comment penser la liberté humaine, d'accord? Bon, je ne rentre pas dans cette problématique-là, mais le cœur de la réponse, c'est que je pense que l'omniscience divine, et si Dieu ne connaissait pas tout, nous ne pourrions pas être libres. Non seulement il n'y a pas d'opposition, mais l'omniscience de Dieu conditionne notre fonctionnement de la liberté. Sans cette connaissance de Dieu, nous ne pourrions pas exercer notre liberté. Bon, je ne vais pas rentrer dans ce débat philosophique. Voilà. Donc, alors même que nous mesurions 0,1 mm, nous nous trouvions face à Dieu. Toutes mes journées sont devant toi, celles de ma plus lointaine origine comme celles qui n'existent pas encore. Dans ton éternel maintenant, Seigneur, tu n'es pas soumis au temps, toi qui me crées à chaque instant. Ton perpétuel aujourd'hui me soutient dans mon présent, mon passé et mon avenir. Pensez aux deux schémas qui sont là. Tous mes jours sont recueillis dans ton actualité créatrice. Peut-être que vous êtes comme moi, on se sent dépassé face à ça. Hein, et c'est normal que c'est pas en une heure que. Et c'est bon d'être dépassé. On est dans un univers où il faut tout contrôler, il y a une joie d'être dépassé, d'accord? Parce que c'est pas un dépassement écrasant, mais c'est un dépassement qui permet. Dans 50 ans, si, je serai sans doute plus là, mais dans 30 ans ou dans 40 ans, je serai toujours dépassé, d'accord? Parce qu'il ne s'agit pas d'une connaissance théorique que je pourrais dominer, mais d'une expérience de plus en plus profonde dans laquelle je rentre. Eh bien, le psalmiste, il est dépassé. Tout psalmiste qu'il est, tout inspiré qu'il est. Et il confesse son impuissance à énumérer les pensées divines, à les compter ou à les raconter jusqu'au bout avec des mots, à les dire, à les parler, à les écrire ou à les inscrire. L'hébreu joue sur le mot « siper »,« sefer », etc. « Pour moi, qu'elles sont difficiles tes pensées, qu'elle est multiple leur somme, les compterai-je, plus que le sable, elles abondent. » Ah, c'est terrible, plus que le sable. Vous imaginez le sable dans l'univers, hein? Les pensées de Dieu abondent plus que le sable. Mes enfants de catéchisme, j'avais fait tout un cours sur la différence, on avait réfléchi ensemble sur la différence entre l'indéfini et l'infini. L'indéfini, ça veut dire qu'on ne peut pas compter. On ne peut pas compter le nombre de grains de sable dans l'univers, c'est impossible. Ce n'est pas parce qu'on ne peut pas les compter qu'il n'y a pas un nombre déterminé. Donc comme tel, le nombre de grains de sable n'est pas infini. Mais il est indéfini. L'infini n'est pas, est encore beaucoup plus que l'indéfini. Ouais. Enfin, beaucoup plus, vous voyez, j'inscris l'infini dans la continuité de l'indéfini. Mais il y a un saut qualitatif entre l'indéfini et l'infini. Excusez-moi de ces divagations philosophiques. Mais c'est intéressant de voir que des choses comme ça sont d'une actualité extrêmement brûlante. Que c'est pas un vieux machin à jeter dans la pensée préarchaïque de l'humanité, comme on voudrait nous faire croire parfois. Le fameux âge, les trois âges d'Auguste Comte, l'âge religieux qui est complètement dépassé, qui a été critiqué par l'âge métaphysique, et maintenant nous sommes enfin dans l'âge de la science. Vous voyez, il n'y a pas de contradiction entre ces trois âges. Ou plutôt entre ces trois dimensions. Cette dimension-là, elle soutient toutes les autres. Aussi, le psalmiste demeure-t-il pour lui-même un mystère dont il ne peut faire le tour. Continuellement, il s'échappe à lui-même, à la compréhension progressive qu'il a de lui-même. Au lieu de s'affliger de cette découverte, il y puise une grande confiance. Quand on est dépassé et qu'on se sent menacé, voilà, je ne peux pas faire face, je vais être écrasé, hein, de coup, on se sent angoissé, etc. Mais face à Dieu, ce dépassement est au contraire source de confiance. Les pensées divines ne l'ont jamais abandonné dans le passé et ne l'abandonneront jamais, ni dans la présent, ni dans le présent, ni dans l'avenir. Elles le soutiennent avec une fidélité sans faille. quelles que soient les épreuves rencontrées, des épreuves qui nous échappent. Aussi, parfois on rencontre des trucs dans nos vies ou autour de nous, on se dit, mais comment c'est possible? Chaque matin, lorsque le psalmiste ouvre les yeux, il peut s'écrier joyeusement, « Je suis encore avec toi ». Pendant la nuit, Dieu était avec moi, je dormais, ma conscience ne fonctionnait plus, mais je me réveille, hop, je suis encore avec toi. Toi, tu es. Je suis celui qui est, dit Dieu à Moïse. Pour toi, la ténèbre n'est pas ténèbre, et la nuit comme le jour est lumière. Donc, le point que je voudrais ici nous faire percevoir, c'est que même lorsque je n'étais pas encore conscient de moi-même, parce que la conscience de soi n'arrive pas tout de suite, hein, même pour le tout petit enfant, hein, au début, il fait le tour avec ses mains pour voir son corps, que son corps est différent de celui de sa mère, etc. Enfin bref, la conscience de soi, elle s'élabore dans la petite enfance, etc. Mais avant même d'être conscient de moi-même, tu me connaissais. Plus fort encore, nous allons le voir bientôt, avant même que mes parents ne soient conscients que j'existe, avant même que ma maman ne sache que j'existe, tu le savais. Tu étais là. C'est ta relation. Tu me créais. Avant même ça. Avant même que j'aie un cerveau. Et donc, avant même que mon cœur ne batte. Donc, ce qui fonde profondément mon existence, c'est cette relation créatrice. Quelle que soit la conscience subjective, plus ou moins forte, que j'en ai, et différente en fonction des différents âges que j'ai. Quelle que soit aussi la conscience que la société ou que les autres ont de moi. Il y a des idéologies qui ont décrété que certaines personnes n'étaient pas des humains, et donc on pouvait les traiter comme des animaux. Bon, des idéologies qui ont dit ça. Bon. Peu importe la reconnaissance sociale, alors, il me reste 10 minutes, 11 minutes. Je vais laisser le cri de tuer les impies de côté. Vous pourrez retrouver ça si ça vous intéresse dans le livre. Moi, j'aime bien garder tout ce que dit le psaume parce que, en fait, le cœur de l'histoire, c'est ceci, c'est que... je vous dis le cœur et puis après... C'est que le psalmiste ayant fait une expérience aussi profonde et nous ayant entraîné dans une expérience aussi profonde de la présence créatrice de Dieu, il acquiert une sorte de sensibilité extraordinaire à la vie. Et donc, il acquiert cette sensibilité telle que lorsqu'on touche au plus petit, il trouve ça insupportable. Et donc, l'impie, c'est celui qui ne reconnaît, au sens étymologique du terme, ne reconnaît pas Dieu, et donc ne reconnaît pas cette relation que Dieu, créateur, a avec chaque petit être humain dès son origine. Et donc c'est pour ça qu'il hurle, et la puissance de ce hurlement est à la mesure de la puissance de l'expérience qui lui a été donnée de faire, de réaliser cette expérience de la présence créatrice de Dieu, oui. Et c'est là-dedans qu'on peut penser et qu'on peut relire, par exemple, cette magnifique encyclique, c'est quelque chose que tout le monde devrait lire une fois dans sa vie, Evangelium Vitae, qui est un cri qui est merveilleux. Mais ce cri se comprend, et c'est le cri de toute l'Église, et que beaucoup de gens peut-être ne perçoivent pas, parce qu'ils n'ont peut-être pas été introduits dans cette expérience aussi intime de Dieu, si vous voulez. Hein, d'accord ? C'est pour ça qu'il y a là. Et par ailleurs, il y a des psaumes qui sont parfois qui vont encore plus à fond en disant si tu pouvais tuer l'impiété de l'impie. Fondamentalement, on pourrait poursuivre le psaume en disant c'est déjà bien de tuer les impies, mais ce serait encore mieux s'il pourrait tuer l'impiété de l'impie. Bon, je l'explique comment dans. Si tu pouvais briser l'arc des forts. Ne brise pas les forts, mais brise l'arc des forts. Ils font plus mal, d'accord ? Ils ont le temps de se convertir. Hein, puis on peut, on est en chemin aussi, il y a tout le mystère du Christ qui nous encore à venir. C'est aussi fabuleux de penser au mystère de l'incarnation à travers cela, à travers cette relation fondatrice. Jésus, comme homme, dans son humanité, a expérimenté cette relation créatrice du Père à chaque instant, dans son humanité. Alors, je passe maintenant à la lumière anthropologique, au pluriel, lumière anthropologique. Alors, je voudrais en dégager, puisque c'est le thème de ce soir, trois enseignements majeurs. D'abord, c'est que l'Écriture sainte a, telle qu'elle se déploie ici dans ce psaume, a une anthropologie profondément ce que j'appelle charnelle. Aujourd'hui, avec le gender, par exemple, la théorie du gender, c'est le retour d'une anthropologie terriblement dualiste. Hein. Il y a l'espèce de corps, là, qui est une sorte de substrat biologique, et puis il y a le social construit. Hein. Donc on est dans un dualisme. C'est quelque chose qui est très étranger à la Bible. Dieu nous crée dans tout ce que nous sommes, pas simplement dans notre âme. Hein. Souvent, par commodité, on se représente un Dieu qui crée l'âme, c'est plus pur pour Dieu, et puis les parents qui s'occupent du corps. Alors, moi, je préfère, enfin, je pense, en m'inspirant de la tradition biblique, dire non, Dieu nous crée, est présent, hein, c'est la conjugaison entre cause première et cause seconde, est vraiment présent dans la création de notre être, y compris notre être physique. Oui. Et je pense que nos parents sont peut-être un petit peu plus impliqués aussi dans la création de notre âme spirituelle, qu'on veut le dire. Hein. Ils sont co-créateurs, ils ne sont pas créateurs. Hein. Une anthropologie profondément unifiée. Développe pas. Alors, une anthropologie, deuxième élément, une anthropologie essentiellement relationnelle. C'est aussi un truc que le gène a du mal à comprendre, c'est combien le corps est le lieu, j'utilise un terme un peu limité, mais est une réalité profondément relationnelle. Une relation originelle. Ce qui me quiconque. En fait, personnellement, depuis 19 ans, comme philosophe, j'avais vraiment une question que je n'arrivais pas à résoudre, et je ne trouvais pas d'écrit satisfaisant. C'est comment conjuguer, comment penser ensemble que je suis un être relationnel et en même temps que je suis un substrat individuel. Comment penser une consistance propre d'un côté et d'un autre côté, comment penser que je n'existe qu'à travers des relations, hein? Comment tenir les deux pôles, hein? Donc, bon, j'ai élaboré plein de trucs, mais ici dans ce psaume, nous voyons que ce qui nous constitue, et là je crois que c'est le cœur de l'anthropologie chrétienne, ce qui nous constitue profondément dans notre noyau personnel, ce n'est pas d'abord la relation sociale, même avec nos parents, encore que, mais c'est la relation créatrice que Dieu a avec moi. Il me donne d'être qui je suis. Et il me le donne, non pas, moi si je vous donne, je ne sais pas moi, mes lunettes, après vous pouvez partir avec mes lunettes, c'est fini, quoi, je n'ai plus. Mais c'est un don continuel. Si vous Donc continuellement, je suis donné à moi-même par Dieu, de façon réelle, comme être créé, comme une altérité, comme une différence, un être différent. Je suis posé comme être différent dans l'existence, mais toujours en relation avec Dieu. C'est cette intuition enfantine qui dit, si Dieu était distrait, une seconde, mais Platon a eu cette intuition-là aussi. Hein. Pour lui, les âmes, quand elles tombent dans la matière, c'est parce qu'elles ont été distraites. Le péché originel, pour Platon, c'est la distraction. Bon, mais il y a quelque chose de juste dans cette conception. Mais donc, si vous voulez, ce qui permet d'articuler à la fois identité et relation en nous, c'est cette relation fondatrice qui nous donne d'être qui nous sommes et qui nous donne d'être un être relationnel. Parce que c'est dangereux de dire que nous sommes un être purement relationnel. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que si jamais il n'y a pas de projet parental, ben, il n'y a pas d'être humain. Oui. Ou bien s'il n'y a plus de relation avec l'euthanasie, s'il n'y a plus de relation avec autrui, ou plus de relations suffisantes, ben, nous perdons notre identité. Non. Ce qui fonde mon être, mon identité, ma consistance propre, comme personne avec mon prénom, Olivier, Sarah, Angelo, ben, qu'est-ce qui me constitue comme être dans mon identité la plus radicale, c'est cette relation créatrice, à chaque instant. Et c'est là-dessus que peut se penser alors les relations avec les autres et avec soi-même. Je suis un être relationnel avec moi-même. Je est un autre. Hein. On a une mobilité intérieure. C'est fabuleux de se dire ça. Un animal n'a pas cette mobilité intérieure. Hein. Il peut pas faire une réflexion. Il ne peut pas penser. Il n'y a pas une différence entre le je et le moi, comme dirait Ricoeur. Hein. Nous sommes un être relationnel avec nous-mêmes. Nous sommes un être relationnel avec les autres. Et c'est pour ça que, pour savoir qui on est, on a besoin des autres. Les autres sont, en quelque sorte, co-créateurs de mon être. Mais que je le sache ou non, dans une infinie discrétion, ce qui me constitue comme personne, c'est cette relation avec notre créateur. Enfin, c'est ce que nous révèle le psaume. Et c'est ce qui nous a donné d'expérimenter en priant ce psaume. En vivant une retraite, par exemple. Moi, ce qui m'a toujours fasciné, c'est que quand on fait une retraite en silence, tout d'un coup, on est coupé de beaucoup de choses, et on est mis en relation avec notre Créateur et Sauveur. D'ailleurs, c'est pour ça que on peut être sauvé. Notre Sauveur est celui en qui nous avons été créés. C'est pour ça que nous pouvons être sauvés à la racine même de notre être. J'ai envie de vous raconter une histoire, mais je n'ai pas le temps. Donc, nous sommes là vraiment au cœur de l'anthropologie chrétienne. Identité et relation est fondée, s'articule autour de cette relation créatrice. Et n'est pas dans une relation d'opposition dialectique. Et c'est une relation qui n'est pas, encore une fois, excusez-moi de le dire, je parlais des retraites. Pourquoi est-ce qu'en retraite, tout d'un coup, quand on prie, etc., on redécouvre son identité propre, et quand on rentre après à la maison ou ailleurs, hop, on est en relation beaucoup plus simple avec les autres. C'est étonnant, quoi. C'est une expérience qu'on peut refaire, tous. Et justement parce qu'on expérimente là, il nous est donné de rencontrer, de vivre à l'intérieur de cette relation qui nous créatrice, oui, qui est la condition de possibilité et le secret de notre identité comme être relationnel. Ça explique aussi l'infinie responsabilité des relations que nous nouons les uns avec les autres, et surtout les relations familiales. Alors, je dis aussi que c'est une relation qui est, cette relation donc créatrice à chaque instant, c'est une relation qui permet de traverser toutes les épreuves, y compris celle de la mort. Vous pourrez lire ça dans le livre, c'est très très intéressant de voir que certaines personnes dans l'Ancien Testament, étant menacées de mort, viennent se réfugier dans la citadelle de leur relation d'origine. C'est très intéressant. Et puis aussi, c'est ce qui fonde fondamentalement l'égalité entre tout être humain, l'égale dignité. Là, nous avons les fondements le plus radical des droits de l'homme. Cette relation-là. Alors, je passe en trois, très rapidement, mais ce sera aussi ma conclusion, une anthropologie théocentrique, une anthropologie charnelle, une anthropologie relationnelle, une anthropologie qui est théocentrique, centrée sur Dieu. Vous pourriez me faire l'objection, ben oui, mais ce psaume, aussi beau soit-il, n'accorde pas beaucoup de place aux parents. Tout est centré sur Dieu. La mère semble réduite à une sorte d'atelier dans lequel le divin créateur vient exercer son art, d'accord? Or, on sait bien qu'une mère de famille, c'est quand même quelque chose. Bon. Alors, pourquoi cela? Plus précisément, quelles convenances pouvons-nous discerner dans ce non-dit? Je vois des convenances pour les parents et je vois des convenances pour l'enfant. Convenances pour les parents, ça fait du bien quand même, je crois, de se dire que je ne suis pas la première, nous ne sommes pas les premiers responsables de nos enfants. Que l'enfant n'est pas le pur produit de mon intelligence créatrice plus ou moins développée, d'accord ? Donc il y a un aspect très libérateur pour les mères de famille, hein, qui peuvent permettre à la vie de se développer en elle avec une certaine confiance, en disant « Ouf, je dois pas être la superwoman qui doit produire l'enfant parfait, d'accord ? L'enfant n'est pas le fruit d'abord de mon savoir-faire. Bon, bien sûr, il faut... dans la mesure du possible, arrêter de fumer, dans la mesure du possible, arrêter mes cours de boxe. Oui, donc c'est sûr, bon, oui, mais ouais, j'ai une responsabilité, essayer d'avoir plus ou moins une bonne relation avec mon conjoint. En même temps, on est bien protégé. Hein, mais bon, voilà, essayer de ne pas s'envoyer les sangliers à la tête. Mais, vous voyez, c'est pas moi, quoi. Donc, il y a une sorte de libération profonde. Pourrait vraiment développer très très fort, notamment avec le docteur Delassue, hein, qui a fondé la maternologie en France, une nouvelle discipline très intéressante, qui aide les mères à devenir mères justement par un lâcher-prise. Et puis une convenance pour l'enfant aussi. Ah ben, bon, quelle que soit la façon dont je suis venu au monde, comme disait Enrico Mathias, que ce soit né par amour ou par accident, je suis l'œuvre d'une attention créatrice de Dieu à chaque instant. Et de ce point de vue-là, je termine par là, ce psaume 138, 139, permet de situer finalement la famille, lieu, disons, sanctuaire de la vie, à sa juste place. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Ah oui, dernière petite chose. Tout ce que j'ai dit et puis ce que je vais dire dans les prochains cours se trouve dans ce petit livre-ci que vous trouvez en vente. Là, il y a deux séminaristes qui ont gentiment accepté de les vendre à la sortie. Vous avez aussi une série de petits Jojo et Gaufrettes. C'est Noël. Ça vaut la peine parfois de faire des petits cadeaux comme ça. Voilà, ce sont des histoires pour enfants. Dans tous les sujets possibles et imaginables. Donc voilà, n'hésitez pas. Alors, et aussi, je fais ça parce qu'en fait, je gagne quasi rien là-dessus, c'est pas pour moi, mais c'est parce que ça peut faire du bien aussi d'offrir ce genre de livres aussi aux petits et aux grands. J'ai eu une étudiante comme ça qui s'est convertie il y a 3 ans et qui est devenue chrétienne, qui m'a dit c'est le seul livre que j'ose offrir à mes amis non-croyants. Donc voilà, je dis ça comme vous voulez. Je vous remercie beaucoup et vous souhaite une bonne nuit.